Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Maurice.
C'est le patrimoine de la France, c'est son terroir, c'est sa culture, c'est son prestige. On parle de viticulture ce midi avec notre invité. Bonjour Vitaly Tettinger.
Bonjour Erwan.
Merci beaucoup d'être sur BFM Business. Vous êtes la PDG de la maison de champagne Tettinger depuis quelques mois, puisque vous avez pris...
Je suis arrivé au mois de janvier.
Vous êtes arrivé en janvier 2020, vous avez pris la suite de votre père, Pierre Emmanuel Tettinger. Contexte compliqué là, pour faire ses débuts.
C'est un baptême du feu.
Baptême du feu, comment ça se passe là, ces 6 premiers mois, vous avez eu à gérer une crise inédite, comment vous avez fait?
Je pense que ça s'est passé dans le calme et avec beaucoup de contrôle. Déjà, il faut parler des 3 premiers mois de l'année qui ont été 3 mois extraordinaires pour la maison avec des résultats jamais connus. Donc, on commence avec un premier trimestre de toute force et de toute beauté qui montre bien la vigueur du champagne partout dans le monde. Et puis là arrive cette crise du Covid qu'on voit lentement arriver, mais à laquelle finalement on a du mal à croire jusqu'au jour où les décisions s'imposent et en équipe, parce que dans ces moments-là, ce qui compte le plus, c'est vraiment d'avoir une équipe solide. En équipe, nous prenons bien sûr la décision de fermer une certaine partie du champagne, notamment les cuveries, la production, de mettre tout le monde en télétravail, et puis seul reste la vigne.
Les 3 premiers mois de l'année, vous l'évoquiez, on va y revenir dans quelques instants, parce que Donald Trump est passé par là, et ça donne du sens à ce que vous nous dites. On va y revenir dans un instant. D'abord sur cette crise-là, Covid-19, est-ce que vous étiez armé, préparé à un scénario comme celui qu'on a connu? Un chef d'entreprise qui est à la tête de sa boîte depuis 20 ans n'est pas forcément préparé à ça. On a vu qu'il y en a pour qui ça a été très compliqué. Vous venez d'arriver?
Alors, je viens d'arriver, mais je suis dans l'entreprise depuis 2007 et bizarrement, ironie du sort, mon père, quand il a repris l'entreprise, a lui aussi vécu une crise comparable, parce qu'en 2008, il y a eu cette espèce d'effondrement que tout le monde a vécu, exactement, et qui s'est bien sûr répercuté en Champagne aussi. Donc voilà, j'arrive et il se passe un petit peu, il se passe une grosse crise inédite aussi avec des effets quasi similaires, mais finalement voilà, j'ai aussi cette préparation un tout petit peu.
Le fait que ça soit une entreprise familiale aussi, Maison Tettinger, ça vous a aidé? Vous avez trouvé du soutien?
Du soutien, et je vais vous dire une chose, pour moi, cette crise a révélé l'esprit de famille au sein de l'entreprise aussi. On en était conscient, mais en fait, quand tout va mal, les liens se resserrent, et la première décision prise a été, au moment où tout le monde partait, de rattraper toutes les adresses personnelles de chacun afin d'établir un canal de communication quotidienne quand il le fallait, hebdomadaire quand ça s'est assoupli, mais en tout cas voilà.
Et j'ai vu que vous êtes effectivement organisé très vite, avant même l'allocution d'Emmanuel Macron le lundi soir, vous aviez déjà pris des décisions en disant voilà, on va mettre tout le monde au télétravail, on prend les devants.
On prend les devants, c'était important pour nous déjà parce que c'est un signe fort envoyé à l'entreprise qui est un signe de responsabilité. Et puis aussi parce que nous avions vu que les décisions prises sur le secteur de la restauration n'avaient pas tellement anticipé toutes les contraintes liées aux commandes, etc., aux vivres à écouler. Donc voilà, pour nous c'était important de prendre une décision qui nous permette d'être en sécurité.
La plupart des maisons de champagne ont fermé au mois de mars. 5000 salariés au total concernés. Vous aussi, donc, vous avez dû vraiment mettre vos activités en pause.
Bien sûr, ouais. D'autant plus que cette crise n'a pas touché que la France. Elle a touché le reste du monde. Donc, c'était une situation totalement partagée.
Est-ce que vous avez fait du gel hydroalcoolique Tettinger?
Non.
Vous n'avez pas participé
non,
à ça.
Non, mais on sait faire du champagne et je pense qu'il faut s'y tenir.
Il y a eu beaucoup de dossiers à gérer en même temps. Au moment où l'essentiel de l'activité était économique, activité économique était à l'arrêt, ça a été quoi vos priorités?
Déjà, nos priorités, la première des priorités pour nous, c'était la sécurité des salariés. Ça, c'était la condition numéro un, parce que ce qui fait cette entreprise et son excellence, c'est le travail de chacun. Et donc ça, c'était important de mettre tout le monde à l'abri. Ensuite, bien sûr, de pouvoir anticiper selon plusieurs scénarios, le pire, le moins pire et le meilleur. Et puis de voir comment, à l'épreuve de ces scénarios, la trésorerie et tous les indicateurs...
réagissent. Voilà. Vous parliez de la restauration. Le champagne dépend énormément de la restauration.
Bien sûr.
Du tourisme, des aéroports. On achète du champagne dans les aéroports. Donc la période a été d'autant plus compliquée pour vous que tout ça s'était fermé.
Ah, ça, c'était inédit. Toute notre distribution touchée. Et c'est vrai que ça pose quand même un certain nombre de questions, notamment la question de tout le secteur numérique, de tout ce qui se passe sur le digital. Et en Champagne, nous avons toujours donné beaucoup d'importance au physique. Parce que pour nous, les cavistes, les restaurateurs sont
ceux qui
véhiculent le savoir-faire, tout ce qui est déployé chez nous dans nos maisons. Il faut de l'humain. Et donc voilà.
Jean Castex, le Premier ministre, était il y a quelques jours auprès des viticulteurs du Cher. Il a annoncé le déblocage de 80 millions d'euros d'aide supplémentaire, ce qui porte l'aide à la filière viticole à 250 millions d'euros au total. Est-ce que c'est suffisant, Vitaly Tettinger? Est-ce que ça peut vous permettre de sortir de cette crise tranquillement et sereinement?
Alors, je peux vous parler de notre situation à nous chez Tettinger. Je ne peux pas parler totalement de toute la Champagne qui en plus revêt un tas de cas avec beaucoup de différences. Donc ça, je ne peux pas. Mais en tout cas, ce que moi je peux dire, c'est que nous nous sommes mobilisés chez Tettinger pour essayer de faire en sorte de solliciter le moins possible les aides de l'État. Et voilà,
aussi,
oui, c'est une période difficile.
Vous n'avez pas sauté sur les aides de l'État?
Non. Non, non, parce que pour nous, c'était important déjà d'être extrêmement stable, de ne pas remettre à demain si on pouvait faire le jour même. Et puis, bien sûr, de travailler sur le financement de cette trésorerie de façon très sereine avec nos partenaires habituels qui ont été très présents. Donc, voilà le chemin que nous avons suivi, mais notre situation n'est pas celle de tout le monde.
Alors, cette enveloppe, finalement, elle va vous aider ou pas? Vous n'en aurez peut-être pas besoin?
Je ne sais pas ce que l'avenir prévoit, mais en tout cas, pour l'instant, et je touche du bois, parce que si nous ne l'utilisons pas, ça veut dire que tout va mieux pour tout le monde. Voilà.
C'est quoi la situation aujourd'hui? Là, on est au milieu du mois d'août chez Tettinger. Où est-ce qu'on en est?
On se prépare activement pour les vendanges parce qu'elles vont commencer anormalement tôt, le 20 août. Je crois, moi, depuis que je suis là, c'est la première fois qu'on attaque aussi tôt.
Le 20 août, vous avez commencé ?
Ouais, le 20 août, voire même, on a certains secteurs, on pourrait attaquer le 18. Donc voilà.
Alors moi, j'avais cru comprendre que certaines maisons de champagne avaient reporté de quelques jours les vendanges. Vous, au contraire, vous les avancez?
Nous, on suit la maturité du raisin. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que, étant donné les fortes chaleurs que nous avons eues, les degrés ont tendance à augmenter.
Donc ça, c'est la priorité, là, maintenant. Priorité absolue, sauvegarder les vendanges.
Pour nous, pas sauvegarder, c'est faire les vendanges. Voilà.
Pour avoir un bon millésime.
Très bon millésime.
Très bon millésime.
Oui, parce que si le contexte a été compliqué, la nature a quand même été très favorable à la vigne depuis le début de l'année. Donc, nous espérons de bonnes vendanges.
Dans le champagne, la moitié du chiffre d'affaires se réalise généralement au dernier trimestre. Ça veut dire que là aussi, il faut être rassurant. Tout n'est pas perdu.
Eh ben, j'ai envie de vous dire, cette crise est tombée à un moment, le mois de mars, où finalement c'était le moins pire pour les champenois. Ouais. Mais par contre, voilà, maintenant on attaque cette saison de la fin de l'année et nous espérons que tout le monde retrouvera de bonnes raisons de se réjouir. Et quoi qu'il en soit, le champagne est là dans les bons jours comme dans les mauvais jours. C'est toujours une bulle d'espoir à cultiver.
On parlait du tout début de l'année, c'était janvier, février, mars, où là vous aviez fait quasiment des ventes records. En tout cas, voilà, plus.
Record.
Record. Pourquoi? Il y avait une augmentation donc des ventes en amont au moment où on commençait à parler de taxes, nouvelles taxes vers les États-Unis. Donald Trump était passé par là. Donc vous avez observé une augmentation de la demande. C'était quoi finalement, les Américains qui anticipaient ces augmentations de taxes et qui ont commandé plus
Il y a plusieurs choses. Alors, ça signifie, bien sûr, il y a eu ce facteur américain qui, pour nous, comme pour plein de situations internationales, c'est vrai qu'il y a un phénomène d'anticipation de la part de la Champagne qui est, bien sûr, si on a une menace d'augmentation des taxes, on va envoyer quelques bouteilles, et généralement celles qui ont le plus de valeur sur le marché en avance. Mais il y a aussi un autre indicateur beaucoup plus positif qui était que l'état des stocks de tous les pays en général était au plus bas, ce qui veut dire que quand même à la fin de l'année dernière, la consommation de champagne s'est extrêmement bien portée et c'est vraiment le facteur que moi je retiens.
Donc ça vous a aussi permis d'amortir le choc de cette année qui a été compliquée.
Complètement, oui.
De quoi vous avez besoin maintenant pour repartir ?
On a besoin d'un monde positif. On a besoin, bien sûr, la situation ne l'est pas, forcément, les nouvelles ne sont pas excellentes tous les jours, mais nous sommes des bâtisseurs et nous avons besoin d'un monde positif.
Il faut se réinventer aussi dans le champagne, vous parliez du numérique. Est-ce qu'il faut être plus digital, même quand on est une grande maison de champagne, historique ?
Il faut vivre avec son temps. Nous accueillons en ce moment même une nouvelle flopée de consommateurs dont les habitudes sont bien sûr plus jeunes, dont les habitudes passent par le digital. Et même si le digital n'est pas forcément une opposition du réel et du virtuel, ça doit être une invitation à vivre les expériences, à aller chercher du plaisir dans la vie. Donc voilà, nous allons nous y employer, même si nous le faisons déjà.
Un mot sur le Kent avant de terminer. Je voulais quand même en parler. Kent, province du Royaume-Uni, puisque vous êtes aussi là-bas propriétaire d'une trentaine d'hectares, vous avez peut-être d'une certaine manière, on est en pleine canicule, anticipé le réchauffement climatique en faisant remonter les vignes un petit peu plus au nord. Avec le Brexit, qu'est-ce que ça va changer pour vous ?
Alors, le Brexit, ça fait quelques années maintenant qu'on en parle et que c'est un changement. Mais finalement, je vais vous dire, nous, le Brexit, nous ne le sentons pas, en tout cas, s'il a un effet, et si je me fie aux ventes de Tétinger, elles n'ont jamais été meilleures que les années passées. Donc, j'imagine que les Anglais sont pour encore longtemps une nation consommatrice de champagne. Et le lien que nous avons avec le Kent ne fait que renforcer cette connivence entre Tétinger et l'Angleterre.
Merci beaucoup. Vitalité.
Je vous remercie.
Un grand merci d'être venu témoigner sur BFM Business. Je rappelle que vous êtes la PDG de la maison de champagne Tétinger.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité.
Bonjour Philippe Ledreyfus.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être sur BFM Business. Vous êtes le président du conseil de surveillance de Louis Dreyfus Armateur, spécialiste de la confection et gestion de navires, les vraquiers essentiellement, mais aussi remorqueurs, rouliers pour le transport de véhicules. Vous êtes à la tête d'un groupe familial, une histoire vieille de 165 ans. Est-ce que la maison Louis Dreyfus Armateur a déjà eu affaire à une telle crise ?
Je suis... Bonjour, merci de m'accueillir. On est de loin plus uniquement dans le transport de vrac, c'est même devenu une activité minoritaire pour nous par rapport aux navires de service high-tech, vous avez un peu mentionné, mais on
la fibre optique
peut-être, ouais, câblier, éolien et autres. Je suis depuis 20 ans dans ce groupe de famille que j'ai repris, mais pas depuis 165 ans.
J'imagine
je ne peux
bien.
Pas tout vous dire. Je sais que ça a été compliqué, sans doute en 29. Ça a été compliqué indéniablement pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a connu une catastrophe importante. Je crois que c'est la première fois qu'on a une crise qui soit économique, sociale, politique peut-être un jour, si ce n'est pas déjà. Et clairement industriel et de l'emploi, ce qui est à terme un gros problème. Donc c'est sans doute la première fois qu'on a une crise aussi grave. Elle est grave pour l'ensemble du monde économique, elle est peut-être encore plus grave pour le secteur maritime qui a ses problèmes propres, spécifiques.
On va y revenir bien sûr. Où est-ce que vous en êtes là ? On est en plein milieu de l'été, mi-août. Comment ça se passe pour vous ?
Écoutez, il n'y a pas de août pour le transport maritime et pour le monde maritime parce que les bateaux,
ça ne s'arrête jamais.
365 jours par an, 24 heures sur 24. Et c'est un des problèmes que nous avons d'ailleurs, si vous me permettrez d'en dire un mot, c'est les relèves d'équipage qui sont d'énormes problèmes à la fois techniques et sociaux pour le monde maritime et pour le personnel navigant. Et donc, c'est là où la grande complication est là. La plus grosse complication, c'est bien sûr la conjoncture qui est molle, même si on peut imaginer qu'elle va repartir, on l'espère, dans la mesure où il n'y aura pas une forte deuxième vague de Covid. Mais la conjoncture est molle, un gros potentiel de redémarrage. Mais c'est un énorme problème pour le maritime parce qu'il y a ces problèmes de relève d'équipage. Les relèves d'équipage, c'est énorme, en deux mots. C'est chez nous, les marins passent deux mois et demi à bord et ont deux mois et demi de congé. Nous n'avons pas vu toujours les relever. Et même si il y a une énorme solidarité de la profession, que leurs collègues voulaient bien y aller, mais il fallait qu'ils passent 15 jours à l'hôtel, à l'embarquement, 15 jours à l'hôtel, au débarquement, dans des endroits pas toujours faciles. Donc un grand salut aux marins français, aux navigants, qui ont donné un bel exemple de solidarité et de courage et de service public.
Oui, ce qui n'a
pas été le cas en France de tous les services publics, peut-être.
On a parlé des médecins, on a parlé des infirmiers, infirmières, caissiers, caissières. On n'a pas parlé des marins, c'est vrai. Ils ont aussi leur place là-dedans. Ils ont été très actifs. Est-ce que l'un des enjeux de cette crise, c'est aussi de conserver les équipages français?
Totalement. On existe depuis 167 ans exactement aujourd'hui. On a toujours eu la préoccupation qu'une maison, c'est comme ça qu'on s'appelle, c'est bien sûr des actionnaires, c'est un nom, ce sont des navires, mais ce sont d'abord et surtout des équipes. Et sans les équipes, surtout dans le type de navigation que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire les navigations high-tech, les câbliers qui ont été très très sollicités depuis quelques mois du fait des besoins de communication. Aujourd'hui, la logistique éolienne en mer avec des navires très spécialisés, les navires rouliers pour le transport d'Airbus, on a besoin de gens ayant une spécificité, une compétence et une formation spéciale. Donc ces gens-là, on a besoin d'eux, la maison Louis Dreyfus a besoin d'eux, mais la France a besoin de ses navigants, comme dans d'autres sociétés françaises.
Parce qu'il y a de plus en plus
de savoir-faire.
Mais il y a de plus en plus de concurrence. Elle est féroce, la concurrence.
La concurrence a toujours été féroce. Le maritime se caractérise par la globalisation, la mondialisation la plus grande. Et nous avons des concurrents. Dans certains domaines, on en a peu, parce qu'on a été des précurseurs. La logistique éolienne, on a été des précurseurs. On s'est lancé là-dedans il y a 8 ans et maintenant ça devient très à la mode. Le câblier, on s'est lancé là-dedans il y a 15 ans. On se rend compte aujourd'hui de l'importance de la chose. On a des concurrents parce qu'on est copiés. Mais c'est un des risques et un des honneurs peut-être de notre profession, c'est d'être copié.
Le commerce mondial, il devrait enregistrer en 2020, sur l'ensemble de l'année, une contraction entre 13 et 32%. Ça, c'est ce que nous dit l'ONU. On parle beaucoup de l'aérien tous les jours dans l'actualité. Peut-être parce que c'est un mode de transport aussi plus concernant, plus familier pour le public. Mais 90% du commerce mondial, Philippe Louis Dreyfus, c'est le commerce maritime. Ça passe par la mer.
Et ça,
on l'oublie.
Très souvent, on l'oublie. Tous les journalistes ne l'oublient pas, heureusement. Merci, monsieur Maurice. Mais c'est souvent le cas. Les politiques parlent beaucoup de la mer, en France comme ailleurs, mais peut-être sans savoir combien on doit, pour notre indépendance économique, pour notre souveraineté nationale, à notre flotte. Et c'est pour ça qu'il est important que nous ayons une flotte, que nous conservions une flotte stratégique pour les approvisionnements, aussi pour certaines activités essentielles, comme celles que je mentionnais, pour les emplois. Et c'est absolument essentiel de garder ça parce que sans flotte, il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus d'indépendance et on dépend totalement de l'étranger, comme on a pu le voir ces derniers temps avec, par exemple, les masques. Il ne faudrait pas que ça arrive avec des choses encore un peu plus importantes.
La crise du Covid-19, elle a démontré l'utilité du transport maritime. Elle vous a prouvé aussi peut-être qu'il était sous-estimé?
Non seulement je l'approuve, mais là, ça fait des années que je pense que le transport maritime est considéré comme la cinquième roue du carrosse, tant par les pouvoirs publics de beaucoup de pays que par les grands clients qui payent, qui considèrent que c'est la fin du cycle d'approvisionnement et de fabrication. On passe par la mer, alors que c'est souvent au départ pour les matières premières et à l'arrivée pour les produits finis. Et c'est donc un aspect absolument essentiel que trop souvent les gens oublient. Pas dans tous les pays. Les États-Unis, la Corée, le Japon, l'Indonésie protègent. C'est pas ce que nous demandons dans le maritime. Nous ne demandons pas de protectionnisme, mais au moins un respect et la considération qu'on doit accorder à une industrie aussi importante.
L'activité dans les ports français, elle en est où maintenant ?
Écoutez, je crois que nos bateaux, personnellement, chez Dreyfus, touchent assez peu les ports français, puisqu'ils tournent complètement sans toucher les ports. Nous, les approvisionnements en hommes, les relèves se font, les approvisionnements se font par hélicoptère le plus souvent. Néanmoins, les ports français sont dans des situations aussi dégradables que beaucoup d'autres, mais sans doute encore pires, puisque malheureusement, la France, grande puissance maritime, place deux grands ports français dans les 100 premiers, et encore je ne sais même pas, mais pas du tout dans les premières places, très très loin.
Et puis ça ne fait que descendre.
Extrêmement désolant pour notre image et aussi pour notre économie, malgré la qualité des gens qui les gèrent.
Est-ce que cette crise a fragilisé encore un peu plus les compagnies maritimes françaises ?
Indéniablement, a fragilisé les compagnies maritimes internationales. Certains pays ont aidé ou aident depuis très longtemps leurs compagnies maritimes, la Chine, je disais, le Japon, la Corée, les États-Unis qui sont très protectionnistes. Mais on s'est rendu compte récemment que des pays, la Chine a continué énormément d'aider leurs compagnies maritimes, Singapour également. Toutes les compagnies maritimes ont des problèmes. La France a fait face, le gouvernement français a pris de très bonnes mesures pour l'ensemble de l'économie, pour l'ensemble des entreprises, avec les PGE, les autres aides.
Vous en avez bénéficié d'ailleurs, de ces plans d'aide ?
Nous sommes en train d'en bénéficier, oui, absolument. C'est absolument normal qu'on soit aidé, comme le sont d'autres secteurs. Oui. Peut-être on aurait pu l'être plus, vu notre spécificité et vu les problèmes spécifiques de nos métiers. En particulier, je mentionnais la relève des équipages, mais il y en a beaucoup d'autres. On a les mêmes problèmes que l'ensemble des autres entreprises, plus nos propres spécificités perverses.
Vous parliez de la compétition internationale, de la Chine plus précisément. La crise, cette crise-là de la Covid-19, elle a aussi rappelé notre dépendance vis-à-vis de la Chine. Est-ce qu'on peut encore rivaliser d'ailleurs avec les Chinois dans le commerce international ? Vous qui êtes un professionnel là, de la mer.
Écoutez, je vais vous répondre une chose. Il y a 10 ans, Chinois ont dit qu'ils deviendraient les premiers constructeurs de navires au monde et les premiers armateurs au monde. Ils diraient que ça prendrait 10 ans pour le faire. Ils sont devenus les premiers constructeurs de navires au monde en 3 ans. Ils sont devenus aujourd'hui sans doute la première flotte au monde, plus ou moins égalité avec les Grecs, en 5 ou 6 ans. Donc oui, on peut les craindre, c'est inéluctable, c'est eux qui importent une grande partie des matières premières, donc ils ont cet aspect-là sur le transport, et c'est eux, bien sûr, je n'apprendrai pas, qui exportent une grande partie des biens que nous consommons. C'est pour ça qu'il faut absolument défendre notre souveraineté et notre indépendance économique et sociale.
Un mot sur le Liban, rapidement, situation dramatique. Le pays était déjà en défaut de paiement avant la catastrophe de ces derniers jours. La CMA-CGM assure 30% des volumes du port de Beyrouth. Comment est-ce que vous regardez ça ? D'ailleurs, est-ce que vous êtes concerné ?
Non, nous ne sommes pas concernés, professionnellement, très concernés comme citoyens, comme amis de ce grand pays, avec qui nous avons beaucoup d'atomes crochus. D'un autre côté, professionnellement, nous n'avons pas grand-chose à y faire, et nous ne pouvons que regretter ce qui s'y passe avec beaucoup de tristesse et de soutien moral.
En quelques secondes, sur le vrac, vous précisiez que ce n'est plus l'essentiel de votre activité, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir du vrac dans la mesure où, a priori, dans une ère, on est dans une ère où le charbon va être de moins en moins présent, moins en moins une ressource énergétique mondiale, en tout cas pas une énergie d'avenir. Comment est-ce que vous regardez ça ? C'est aussi pour ça que le vrac vous tend à devenir de moins en moins important dans vos activités ?
Non, c'est une volonté délibérée de se sortir d'une activité qui va de plus en plus être entre les mains des grands chargeurs, des grands exportateurs miniers, parce qu'il n'y a pas que le charbon, il y a le minerai de fer, des choses comme ça, et les grands utilisateurs industriels, les sidérurgistes et autres. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que, bien sûr, le charbon va diminuer, pas autant que ce qu'on peut imaginer, c'est encore très utilisé, mais il y a le grain, il y a les engrais, il y a le minerai, qui sont, eux, assez actifs aujourd'hui, qui vont être très utile pour la reconstruction, le redémarrage de l'activité ou la reconstruction de certains pays. Vous parlez du Liban.
Merci beaucoup, Philippe Ludreyfus.
Merci de m'avoir invité.
Avec plaisir pour votre regard sur ces actualités. Je rappelle que vous êtes le président du conseil de surveillance de Louis Dreyfus Armateur.
BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Maurice.
Voilà, la période des soldes d'été vient de s'achever. Le moins qu'on puisse dire, c'est que 2020 n'a pas été un très bon cru. Au global, le chiffre d'affaires des soldes est en baisse de 30% par rapport à l'année dernière. Bonjour Karine Schrenzel, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes la fondatrice de la holding Shop Invest, directrice générale de 3 Suisses, que vous avez racheté il y a 2 ans dans le but de relancer la marque. Avant de parler des soldes avec vous, comment vont les 3 Suisses ?
Écoutez, on va bien parce que après 10 ans de perte et puis donc 1 an après le rachat, on a renoué avec la rentabilité. On a aussi mené une vraie transformation en termes d'offres produits, une offre plus locale, plus française, avec des matières plus naturelles, un virage vers le plus responsable et puis une offre beaucoup plus inclusive aussi pour toutes les femmes et pensée avec les femmes. Voilà, donc une vraie transformation en un peu moins de 24 mois.
C'est vrai qu'il fallait relancer la marque, la renouveler, la moderniser. 3 Suisses avait perdu 650 millions d'euros entre 2005 et 2018, date à laquelle vous en avez pris la tête. Vous avez demandé, d'ailleurs récemment, c'était pendant la période du coronavirus, ça n'avait pas directement de lien, mais vous avez demandé à être mis en procédure de sauvegarde. Est-ce que depuis 2018, là, vous avez réussi à commencer à inverser la tendance ?
Oui, justement, en fait, pour bien différencier, on est en procédure de sauvegarde et non pas de redressement. Et c'est une procédure qui a été demandée par nous de manière à pouvoir étaler la dette antérieure à notre rachat, puisqu'on avait hérité d'une dette assez importante. On en a remboursé plus de la moitié et on a juste besoin d'un peu plus de temps pour rembourser le reliquat. Mais cette procédure est acceptée que en cas de rentabilité par les tribunaux. Et donc, aujourd'hui, justement, à peu près 12 mois après le relancement, on a renoué avec une rentabilité. Et aujourd'hui, chaque mois, on peut dire qu'on est déjà rentable. Donc, c'est vraiment pour nous un vrai soulagement. Et c'était vraiment le but. Et on savait qu'on pouvait y arriver. Il fallait faire une vraie transformation, une remodernisation. Mais c'est ce qu'on a entrepris. Et je pense que ça a pas mal plu, puisque voilà, on a pu renouer 12 mois après avec la rentabilité.
Bon, alors les soldes, Karine Schrenzel, chez les 3 Suisses, là, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que la crise sanitaire a profité au e-commerce ? Parce qu'on voit qu'au global, 30% de baisse du chiffre d'affaires sur 1 an, c'est clairement très mauvais. Est-ce que dans le e-commerce, et puis chez vous, chez les 3 Suisses plus particulièrement, ça a résisté ?
Oui, alors il y a eu plusieurs périodes, si on décompose un peu depuis la crise du coronavirus, il y a eu les premiers jours d'annonce où clairement même le e-commerce était en très forte baisse, on a dit à peu près moins 40% entre la dernière quinzaine de mars, puisque les gens ne consommaient plus que des besoins de nécessité première, on va dire. Ensuite, effectivement, on a été très préservés dans le e-commerce, puisque là, on a reconnu au contraire un rebond, une croissance. Les gens avaient quand même envie de consommer et la seule possibilité était le e-commerce. Et donc, 3 Suisses a connu de très, très belles croissances à ce moment-là. Tout comme beaucoup de nos confrères. Et puis les soldes quand même en deçà de l'année dernière, même si probablement meilleur que pour des magasins parisiens ou des grandes métropoles qui ont été désertées, puisque ce sont les congés, les vacances pour beaucoup de gens.
Bien sûr.
Mais en tout cas, clairement quand même un peu décevante, comme vous le disiez, pas un bon cru pour l'année 2020.
Absolument, 79% des commerçants parisiens, selon les chiffres de la CCI de Paris, se disent déçus par les soldes de cet été. Est-ce que vous avez mis une stratégie spécifique en place cette année avec tout ce qui s'est passé, et notamment la crise sanitaire ? On pense aussi au confinement. À ce moment-là, est-ce que vous avez réussi à tirer profit du confinement, que les clients étaient finalement chez eux, avaient accès à Internet et potentiellement pouvaient acheter. Est-ce que vous avez réussi à tirer profit de tout ça ?
Oui, je pense qu'il y a eu deux éléments qui se mélangeaient. Il y a eu à la fois la gestion de crise, puisqu'on avait quand même un tas d'éléments à gérer, que ce soit au niveau de la logistique, du service client, etc. Et la crise compliquait quand même tout cela. Pour autant, les clients étaient beaucoup plus compréhensifs également et comprenaient s'il y avait quelques jours de retard dans leur livraison. Mais on a réussi à maintenir l'activité. Et puis, c'est vrai qu'il y a une vraie transformation, donc peut-être aussi de nouveaux cyberacheteurs qui vont ensuite maintenir ce nouveau mode de consommation pour eux, puisque ça a permis à de nouvelles personnes de devenir des cyberacheteurs, des gens qui achètent sur le web. Donc clairement une vraie croissance. Puis je pense que on avait entrepris justement il y a 24 mois une vraie transformation. On s'est dit on va aller vers beaucoup plus de production française et européenne, puisque quand on a racheté on était à 99% made in China, on est passé à 88% fabriqué en Europe. Et je pense que en fait la crise a aussi accéléré cette transformation qui était déjà une tendance de fond, d'aller vers une consommation plus verte, plus responsable, des matières naturelles, plus locales aussi. Et donc, en fait, ça a accéléré ce mouvement, je pense, qui était déjà bien sûr initié et que nous, on avait fait comme tournant lors du rachat.
Et qu'est-ce qui a le mieux marché là, chez les trois Suisses dans cette période? On parlait du confinement,
alors,
on parlait
de la crise des sols. C'est là où on a vu vraiment...
Ça va être quoi? Ça va être les vêtements? Ça va être le linge de maison aussi que vous vendez?
Ouais. Ça va être effectivement tout ce qui est maison, donc linge de maison, mais déco.
Parce qu'on est beaucoup resté chez soi et on s'est dit peut-être on va refaire un peu la déco.
Voilà, je crois qu'on est beaucoup resté chez soi. On s'est aussi dit c'est quand même des achats plus utiles parfois, et donc il y a eu quand même notamment pendant les soldes, on a favorisé les achats un peu plus utiles. Et donc, effectivement, tout ce qui était autour de la maison, et surtout qu'on y avait passé un temps certain et qu'on voyait plus ce qui nous déplaisait, ce qu'on avait envie de changer, d'améliorer ou de tout simplement donner un coup de frais et de neuf. Et donc, la maison a clairement très, très bien performé pendant cette période. Tout ce qui est déco et même gros meubles, etc., a très, très bien performé.
Donc vous avez moins souffert chez les 3-6 et puis globalement sur le web du fait que les soldes aient été repoussés, qu'elles arrivent en plein milieu de l'été, que les Français soient partis en vacances, que les touristes n'aient pas été là. Finalement, là-dessus, c'est les avantages du e-commerce. Vous n'avez pas les mêmes difficultés, les mêmes inconvénients que les commerçants qui font du commerce en physique.
Non, tout à fait. Alors déjà, effectivement, nous, on a très peu de touristes. Hein. Quand on est dans le e-commerce, notre cœur de business n'est pas le tourisme, les touristes en tout cas. Mais tout de même, le fait d'avoir décalé, ça a été quand même lancé le lendemain d'un 14 juillet, donc d'un week-end prolongé. Et puis ça se termine, on a observé sur les dernières années, la fin des soldes devient de plus en plus forte. Mais cette année, se terminant un 11 août, les soldes étaient quand même bien en deçà pour une fin de solde, puisque beaucoup de gens sont en vacances. Mais c'est certain qu'on a été relativement préservé dans le e-commerce, mais les soldes sont quand même en dessous de l'année dernière pour 3 Suisses chez nous. Et voilà, mais si on regarde d'un point de vue économique global, ça a peut-être permis aussi de redépenser vers le tourisme ou la restauration pour beaucoup de Français. Ouais. Et c'est peut-être bien aussi, puisque ça faisait quelques mois que eux souffraient terriblement et n'avaient pas eu d'activité pendant 3 mois. Donc voilà, si on regarde l'ensemble, il faut se dire que c'est peut-être un rééquilibrage nécessaire.
Bon, et pour autant, vous n'allez pas complètement abandonner le papier. Vous allez continuer à produire votre petit catalogue. Ça ne va pas être du 100% digital. D'un mot, très rapidement pour terminer, est-ce que vous n'avez pas aussi peur, d'une certaine manière, que les commerçants traditionnels aient vu cette année 2020 comme vraiment un électrochoc et le fait que maintenant, il faut se digitaliser et qu'une nouvelle concurrence arrive face à vous? Il y a déjà les Amazon, mais peut-être les petits commerçants.
Écoutez, je pense que effectivement, ça va être plus dur en fait pour les petits commerçants. La réalité, c'est plus toutes les grandes marques qui ont fait un vrai saut vers le e-commerce. Tous ceux qui disaient encore que leur flagship, leur magasin principal n'était toujours pas le e-commerce. Toutes les grandes marques qui avaient encore des magasins plus forts, c'est presque étonnant. Et je pense que c'est plutôt toutes ces grandes chaînes qui vont vraiment accélérer le digital. Mais je pense que c'est nécessaire. Pour les petits commerçants, en effet, ça va être plus compliqué, même s'ils vont peut-être commencer aussi à passer par des marketplaces ou des choses comme ça. Mais c'est plus dur parce que c'est quand même un métier totalement différent, même si on a l'impression de l'extérieur que ça peut être la même chose. Le e-commerce et le retail physique sont quand même des métiers très différents au quotidien.
Merci beaucoup, Karine Schrenzel. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la holding Shop Invest et directrice générale donc des 3 Suisses que vous avez repris en 2018.